Qui était Henri Verneuil ? Un artisan consciencieux ? Un professionnel émérite ? Un cinéaste sous-estimé ? Il était tout cela à la fois. Roi du box-office qui a fait tourner les plus grandes stars, le plus américain des réalisateurs français a traversé le cinéma français durant 4 décennies. À l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray de Icomicar et 1000 milliards de dollars, édité chez Gaumont, je vais vous raconter comment le cinéaste a su s'investir dans des œuvres plus ambitieuses qui, si elles n'ont pas eu l'impact espéré en leur temps, méritent aujourd'hui d'être redécouvertes.
Histoire de cinéma, un podcast revu et corrigé, coproduit par le Mouvement Up, présenté par Antoine Julien.
Le 6 décembre 2000, Henri Verneuil fait son entrée à l'Académie des Beaux-Arts, sous la fameuse coupole qui a vu passer tant d'illustres intellectuels, écrivains et artistes avant lui. Une consécration tant attendue pour le cinéaste, âgé de 80 ans, qui a souvent reçu les louanges du public à défaut de celles de la critique. Un moment qu'il qualifie sobrement de « dernière page d'une modeste histoire d'intégration ». Henri Verneuil s'approche du micro et commence à lire son discours. Il revient d'abord longuement sur ses origines arméniennes, son arrivée à 4 ans dans le port de Marseille, son installation au 109 rue de Paradis, son enfance. Jusqu'au cinéma, le cinéma de papa auquel certains l'ont très vite associé. Voici ces mots, extraits de son discours. « Depuis 16 jours, cela fait 50 ans que j'exerce à temps plein ma profession de cinéaste. Je m'empresse d'ajouter que la longévité dans ce cas ne prouve rien d'autre que... Je ne suis pas mort jeune, j'ai réalisé 36 films, ça s'est plutôt bien passé, merci. Tout au long de ce demi-siècle, je n'ai jamais oublié ce que Raymond Queneau disait du cinéma, je le cite, « En dehors des milieux intellectuels, le cinéma est né dans les kermesses, a vécu dans les faubourgs et s'est épanoui sans l'aide des gens cultivés. » Tout au long de ces 50 ans, j'ai assisté à la naissance d'un cinéma qui sacrifie souvent son instinct, son lyrisme et ses jaillissements à quelques satisfactions narcissiques et cérébrales. Applaudis, encouragés par quelques fantoches de l'art, je les ai vus lentement rongés par cette bactérie qu'est l'intellectualisme systématique. En l'absence de talent, on se croyait obligé d'être intelligent. Je n'ai jamais lu ni entendu dire que Wolfgang Amadeus Mozart fût un compositeur intelligent. Jamais son cerveau ne fut à l'ordre du jour. On se contente de son génie. Tous les grands créateurs l'ont dit, l'intelligence en art ne crée pas. Elle se traîne de raisonnement en analyse, de jugement en destruction, elle table ronde, elle colloque, elle séminarise, mais elle n'avance pas, elle reste monotone et pédante parce qu'il lui manque le souffle de la vie, ce jaillissement de l'inconscient qui va devenir beauté. On réfléchira après. Il y a plus de 50 ans déjà, le cinéaste René Clair nous mettait en garde contre cette maladie du siècle. L'ennui, a-t-il dit, à nos jours, c'est lettre de noblesse. Il fait sérieux, distingué, intellectuel. Et aux yeux de certains, un spectacle ne peut être tout à fait délectable s'il n'est plus ou moins assaisonné d'un zeste d'ennui. Et Verneuil d'affirmer, depuis 50 ans, nous sommes très nombreux avec cette certitude que le cinéma sera populaire ou ne sera pas. Durant plusieurs décennies, Henri Verneuil fut le champion incontesté du box-office, accueillant devant sa caméra les plus grandes vedettes, Fernandel, Gabin, Delon, Belmondo. Mais le cinéaste est en manque cruel de reconnaissance. Comment celui qui est perpétuellement cantonné à l'image de bon faiseur et de professionnel honorable pourrait-il accéder au rang de cinéaste important ? Henri Verneuil, de son vrai nom Akob Malakian, est né à Rhodotsur en Turquie. Il débarque en décembre 1924 à Marseille avec sa famille arménienne qui a fui le génocide perpétré par les Turcs. À 15 ans, il découvre le film La Reine Christine de Rouben Mamoulian avec Greta Garbo au cinéma Rialto à Marseille. Le réalisateur Rouben Mamoulian est d'origine arménienne, comme lui. Il comprend alors que le 7e art n'est peut-être pas inaccessible. Après des études à l'école des arts et métiers d'Aix-en-Provence, d'où il sort diplômé en 1943, il devient journaliste au magazine Horizon en 1944, puis critique de cinéma à la radio marseillaise. Au moment de signer un document, il lui est demandé de prendre un pseudonyme. Sans idée particulière, il lève le nez pour regarder les murs autour de lui, avise une affiche mentionnant la ville de Verneuil, et choisit ce nom-là. En tant que journaliste et critique, il devient familier des plateaux de tournage et des réalisateurs. Il commence à tutoyer le monde du cinéma qui le fascine tant. En 1947, il réalise un court-métrage documentaire sur la ville de Marseille, Escale au soleil. Bien qu'il soit encore totalement inconnu, il parvient à convaincre Fernandel d'en faire la voix off. Tout le monde vous le dira, mon père était un technicien hors pair, raconte Patrick Malakian, le fils du cinéaste. C'est pour cela que les plus grands acteurs du cinéma lui faisaient confiance. Il avait complètement assimilé les techniques. Je pense que Fernandel avait perçu tout cela en lui. Et c'est la star qui l'impose à la réalisation de son premier long-métrage, La table aux crevés, d'après l'œuvre de Marcel Aimé, en 1951. Le film marque le début d'une longue collaboration entre les deux hommes, qui travailleront ensemble sur Le fruit défendu, Le boulanger de Valorgue, Carnaval, L'ennemi public numéro 1, Le mouton à cinq pattes, Le grand chef et La vache et le prisonnier, en 1959, pour lequel le cinéaste collabore avec le scénariste Henri Janson. Le film est un triomphe, avec plus de 8 millions de spectateurs dans les salles françaises. Henri Verneuil confiera plus tard à Bertrand Tavernier qu'il regrettait que ce ne fût pas Bourville qui ait joué ce personnage de prisonnier français durant la Seconde Guerre mondiale, qui cherche à s'évader et retourner en France en ne trouvant qu'une vache comme stratagème. Le cinéaste disait, selon Tavernier dans un entretien accordé à Télérama en 2013, que le film aurait été bien meilleur et qu'il n'aurait pas eu affaire à un type qui le forçait à déjeuner avec lui régulièrement dans sa caravane et lui envoyait ensuite la note du repas. En 1961, Verneuil signe un contrat de 3 films avec la MGM, tous interprétés par son nouveau comédien fétiche, Jean Gabin. Le Président en 1961, Un Saint-Jean d'hiver en 1962 et Mélodie en sous-sol en 1963. Les films sont de grands succès commerciaux et assoient un peu plus la réputation d'Henri Verneuil, qui sait manier l'ego de ses vedettes et dispose de plus en plus de moyens. L'apogée se produit en 1969 avec Le Clan des Siciliens, pour lequel il réunit sur la même affiche Jean Gabin, Alain Delon et Lino Ventura. Produit par la 20th Century Fox, le film bénéficie d'un important budget, ce qui permet au réalisateur de tourner des scènes d'action très ambitieuses, assez rares dans le cinéma français de l'époque, comme la séquence de l'atterrissage d'un avion DC-8 sur une autoroute. Verneuil ne s'est sans doute jamais autant approché de l'efficacité du cinéma américain qu'il admire tant. Le cinéaste est à nouveau plébiscité, près de 5 millions de spectateurs vont voir son film, accompagné par la musique inoubliable d'Ennio Morricone.
Bonsoir, monsieur Malaise. J'espère que vous n'êtes pas trop étonné de me voir là.
Je vous avais dit de passer quand vous vouliez.
On dirait que vous avez encore eu de la chance.
Si on peut dire.
Alors, on y va?
On y va.
Tu dînes pas avec moi ce soir?
Non, pas ce soir.
Durant la décennie suivante, Verneuil s'associe avec Jean-Paul Belmondo et les succès s'enchaînent. le casse, peur sur la ville, le corps de mon ennemi casse la baraque. Mais Verneuil est déconsidéré. Son statut de champion du box-office provoque un mépris croissant de la critique à son égard. Il veut que son cinéma soit davantage en phase avec les préoccupations de la société, qu'il ne soit plus réduit au simple divertissement du samedi soir. Il a monté sa société de production, V-Film, et compte en tirer avantage en se lançant dans des projets plus ambitieux. C'est alors qu'il s'intéresse aux expériences menées par le chercheur américain Stanley Milgram. Au début des années 60, Milgram entreprend des recherches en psychologie sociale, sur la soumission à l'autorité, au sein de la prestigieuse université de Yale. Pour les mener à bien, Milgram fit passer des petites annonces dans la presse proposant à des volontaires de se soumettre à une expérience, moyennant une modique rémunération. Le principe de l'expérience est le suivant. Un moniteur est chargé de faire réciter des mots à un élève et si celui-ci se trompe, il doit lui infliger des chocs électriques de plus en plus forts à chaque erreur. Les résultats de l'expérience sont saisissants. 63% des participants obéissent aux ordres donnés par Milgram et son équipe et la plupart d'entre eux sont allés jusqu'à infliger des décharges de 450 volts. Sauf que l'expérience est en réalité une mise en scène. Le cobaye qui subit les décharges électriques est en fait un acteur qui simule ses souffrances. Sauf que les participants, eux, ne le savent pas. Fasciné par les recherches de Milgram, Verneuil va en tirer un film. Il rencontre l'écrivain Didier Decoin, tout juste auréolé du prix Goncourt pour John L'Enfer. Bien que Decoin n'ait aucune expérience de cinéma, Verneuil l'engage. L'écriture du scénario durera plus d'un an, rythmée par l'exigence intraitable du cinéaste, comme le raconte Decoin dans l'un des bonus de l'édition DVD Blu-ray de iComicar.
Et puis on arrive un jour, on était au mot fin, et Henri me dit « Alors, on est arrivé au bout, hein ?» Alors tu sais, je crois quand même que c'est un sacré bon scénario. Alors on va se faire une petite coupette pour célébrer ça. Il ouvre une bouteille de champagne, on trinque. On était un vendredi soir. Il me dit « Bon, allez, au succès d'iComicar et à lundi. » Je dis « Pourquoi à lundi, on a fini ?» Il dit « Oui, non, mais on va recommencer. » Je dis « Henri, pourquoi tu veux recommencer ?»« Parce que ça peut être meilleur encore. » Et ça a été meilleur encore. Et j'ai compris que sur une œuvre telle que le cinéma, mais c'est pareil en littérature, c'est pas un hasard de remettre 100 fois sur le métier. C'est une nécessité. C'est-à-dire que quand on a fini et qu'on est content, il faut dire « je recommence ». Même si c'est... Si on se dit « mais c'est... » J'ai cru que j'allais l'étrangler. Mais il avait raison. Et donc on a refait le scénario d'iComicar pour arriver au résultat que donner... Et je crois que c'est un film formidable.
iComicar raconte l'enquête déterminée d'un juge d'instruction, Henri Volney, sur l'assassinat d'un président d'un pays inconnu. Volney ne croit pas à la thèse officielle du tireur isolé, et ses investigations vont le mener à découvrir une toute autre vérité. Le film s'inspire très directement de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Les références à l'affaire sont nombreuses, la parade du président dans sa voiture juste avant sa mort, les buildings environnants ressemblant à ceux de Daley Plaza à Dallas, le fusil à lunettes emprunté par l'assassin présumé, Daslo dans le film, qui ressemble beaucoup à celui de Lee Harvey Oswald. Sans oublier la commission Heinegger que Volney remet en cause, qui rappelle évidemment la commission Warren entachée de soupçons et qui a fait d'Oswald le tueur unique de Kennedy. Pour simuler son pays imaginaire, Verneuil a besoin de décors les plus neutres et impersonnels possibles, bien que le film fasse référence explicitement aux États-Unis. Le cinéaste décide de poser sa caméra à Cergy-Pontoise et à La Défense, où il va notamment tourner l'assassinat du président Jarry. Des décors qui vont conférer au film une banalité inquiétante. Verneuil fait une fois encore preuve de ses qualités de technicien, travaillant toujours sur le plateau avec son grand cahier noir qui ressemblait à celui d'un architecte dans lequel il dessinait les croquis, notes techniques et plans de tournage dans les moindres détails. Ainsi parfaitement préparé, il pouvait pleinement se consacrer à ses comédiens. Désirant se situer dans les pas de Costa-Gavras, l'un des fers de lance du cinéma politique français, il choisit Yves Montand pour interpréter l'intègre procureur Volney. Au milieu du récit, Verneuil aborde de plein fouet l'expérience Milgram, reconstituée avec minutie dans le film, comme on peut l'entendre dans cet extrait.
Vous croyez sérieusement que ces chocs électriques ont aidé M. Rivoli à améliorer sa mémoire ?
Je répète.
La mémoire de M. Rivoli ne présente ici aucun intérêt. Ce qui nous intéresse, c'est la capacité d'obéissance de M. Despol, sa soumission à l'autorité. L'autorité pour M. Despol, c'est le cadre de cette université, le professeur Flavius, moi-même, et nos blouses blanches qui sont les symboles de cette autorité. Nous venons de lui imposer un code de punition à infliger à une victime qui ne lui a rien fait. Jusqu'où va-t-il obéir à cet ordre imbécile et révoltant que nous venons de lui donner ? Tout le problème est là.
Mot suivant, jaune.
Citron.
Bien, très bien. Oui, c'était citron. Bon, allons-y. Mot suivant, grillé.
Pain. Pain grillé.
Mais non, c'est faux ! C'était poisson, poisson grillé. 165 volts.
Arrêtez. Je refuse de continuer. Laissez-moi partir.
Mais enfin, il va tout de même pas aller jusqu'à 450 volts.
Je ne sais pas. Voyez-vous, il est évident qu'à partir d'un certain moment, M. Despol va devoir affronter un problème. D'un côté, sa soumission à l'autorité, exécuter la mission qui lui a été confiée. De l'autre, sa répugnance à faire souffrir sa victime. Despol va être progressivement secoué par un conflit intérieur presque insoutenable. Pour se tirer de cette situation, il devra rompre avec l'autorité et désobéir. C'est l'instant de cette rupture que nous étudions. Veuillez poursuivre, Monsieur Despol.
I comme Icare s'inscrit aussi dans une vague de films américains abordant des complots politiques, comme À cause d'un assassinat d'Alan Pakula ou Les Trois Jours du Condor de Sidney Pollack. Verneuil dénonce les pouvoirs dans nos sociétés contemporaines et approche la manière dont un pouvoir, quel qu'il soit, peut amener n'importe qui à effectuer des actes d'une grande violence au nom d'une autorité légitime. I comme Icare sort le 19 décembre 1979. Le film est plutôt bien accueilli par la critique et reçoit plusieurs nominations au César. Un début, enfin, de reconnaissance pour Henri Verneuil. Le réalisateur sent de plus en plus qu'il doit s'éloigner des recettes trop faciles. Il se met en quête d'un nouveau sujet pour son prochain film. Et tout démarre dans une librairie, comme il l'a raconté lors d'une rétrospective de ses films donnée à l'Institut Lumière à Lyon, en décembre 2001.
Et je me souviens très bien, cet après-midi-là, il était vers 1h30, 2h, je suis rentré dans la librairie Julliard à Boulevard Saint-Germain, qui s'étend en longueur, comme ça. Vous allez voir comprendre pourquoi je vous décris la salle. Avec des séparations, histoire, roman, économie. Vous voyez, c'est divisé par... Alors, je traverse la librairie. Évidemment, à grande vitesse, j'abandonne l'économie, parce que je n'y comprends rien et que ça ne m'intéresse pas. Et à peine ai-je quitté l'espace économie, que je reviens sur mes pas, il y a quelque chose qui m'a retenu, un livre blanc, le premier titre en gros et en bleu, c'est 1000 milliards, et en rouge, 2 dollars. Le haut du dollar étant constitué par une pièce de 1 dollar en argent. Et la première chose qui me vient à l'idée, c'est que quel que soit le lieu, le thème, l'endroit où il y a 1000 milliards de dollars, il y a une emmerde. C'est sûr. Dramaturgiquement, il doit se passer quelque chose. Ils vont au moins s'entretuer, et c'est toujours le cinéaste qui s'intéresse, donc je ne suis pas du tout un... quelqu'un qui va défendre une idéologie, pas du tout. J'ai qu'une idéologie, qu'une chose que j'aime, le cinéma. Je suis un dingue du cinéma. J'en ai un autre à côté qui me bat de loin. Et je regarde ce titre qui me fascine. 1000 milliards de dollars. Nom de Dieu, combien il y a de cadavres derrière ça? Et je commence à feuilleter. des courbes. Je comprends rien du tout de produits PBI demain. Rien. Je comprends rien. Je relis encore une fois une page. Rien. Je laisse tomber et je vais dans la section à côté. Je regarde les livres dans la section à côté et je suis toujours fasciné par l'autre 1 000 milliards de dollars. Alors lentement, je reviens, je reprends ce livre. Je regarde l'auteur, Robert Lattès. Il y a bien un Lattès qui est éditeur, mais ça ne peut pas être lui. Robert Lattès, 1 000 milliards de dollars, ça me... Et je dis, c'est pas possible, là, il faut que je comprenne. À un moment donné, quelqu'un me tape sur l'épaule et me dit « Monsieur, on va fermer ». Il était 1h15 quand je suis arrivé dans la librairie et on ferme vers 19h. J'allais passer mon temps à relire et à relire pour essayer de comprendre. Et j'ai quitté la librairie en ayant à peu près dévoilé ceci. 7 sociétés au monde, qui n'ont plus de nationalité à ce niveau-là, font, à la fin de l'année, 1 000 milliards de dollars.
Le livre de Robert Lattès dont parle Henri Verneuil, publié en 1969, prévoyait qu'en 1985, 30 multinationales détiendront chacune le chiffre d'affaires de 1 000 milliards de dollars. À l'aune des années 80, c'est déjà une réalité. Robert Lattès s'attaque au pouvoir grandissant de ces multinationales qui accentuent frénétiquement leur influence sur les États. Henri Verneuil s'inspire également du livre de Lawrence Mayer, Gare à l'intox, pour bâtir une intrigue dans laquelle un journaliste, Paul Kerjean, est mis sur la voie d'un scandale financier impliquant un capitaine d'industrie française. Celui-ci se suicide, mais le journaliste s'aperçoit que ce qu'il a découvert n'est qu'une partie d'un scandale, beaucoup plus important, impliquant la puissante multinationale américaine GTI. Pour incarner ce journaliste, Verneuil pense immédiatement à Patrick Devers. Les deux hommes semblent pourtant aux antipodes l'un de l'autre. Verneuil ressent pourtant le besoin de se frotter à la jeune génération. Et Devers, depuis Les Valseuses jusqu'à Série Noire, est devenu incontournable. Mais l'acteur traverse une période délicate, particulièrement avec la presse. En effet, peu de temps auparavant, il s'en était violemment pris un journaliste du journal du dimanche, Patrice de Nussac, qui avait promis au comédien de ne pas dévoiler son prochain mariage avec Elisabeth Chalier, la mère de sa seconde fille. Mais le journaliste avait tout de même vendu la mèche. Depuis, l'acteur subit un véritable boycott de la part des médias et les producteurs hésitent à l'engager. Il n'est plus interviewé et, fait sans précédent en France, son nom est supprimé du générique de ses films dans plusieurs journaux, voire remplacé par ses initiales, PD, employé dans une ambiguïté à connotation péjorative, voire carrément douteuse. Que l'acteur accepte ce rôle de journaliste opiniâtre et maître de lui est vu comme une espèce de pied de nez à toute une profession qui désormais le méprise. Surtout, Devers veut s'éloigner des personnages de paumé et de fêlé qui ont fait sa réputation. Il décide ainsi de changer de look, arborant de nouveau la moustache qu'il ne portait plus dans Série Noire, Beau-père, Un mauvais fils et Hôtel des Amériques. Voici comment Patrick Devers raconte sa collaboration avec Henri Verneuil sur le tournage de 1 000 milliards de dollars dans cette interview donnée à la radio-télévision suisse en novembre 1981.
D'abord, c'est vrai que Verneuil, moi je me disais Verneuil, tiens, on m'aurait dit il y a quelques années que j'allais tourner avec Verneuil, je vous aurais rigolé au nez. Et puis là, il m'a proposé un scénario où il y avait des choses qui me semblaient vraiment, vraiment importantes à dire. C'est-à-dire ce cri d'alarme qu'il lance à travers le film sur le danger des généralités, que ce soit la généralité économique ou que ce soit la généralité de l'information. La généralité économique, cette puissance des multinationales, est dangereuse pour la population. Et la généralité de l'information est également dangereuse, extrêmement dangereuse, car le personnage que je fais est un personnage qui est mi-noir, mi-blanc, c'est-à-dire que pendant la première moitié du film, il se livre à son vice favori qui est la recherche du scoop, et il en a un, on lui sert un scoop, et il va divulguer ça, c'est-à-dire qu'il va donner une fausse information qu'il croit vrai, mais ouais. Il est tellement content, il va donner une fausse information, ce qui va engager un scandale politique et le suicide d'un grand personnage politique.
Mais
et à partir de ce moment-là, il va s'apercevoir qu'on l'a induit en erreur, et il se met, et là le personnage devient blanc, il se met à la recherche de la vérité.
Mais dites-moi, vous avez accepté ce film pour le message que véhicule ce film que vous venez de nous expliquer, ou pour le box-office que représente Verneuil? Vous savez qu'avec Verneuil, vous allez faire 500 000 entrées à Paris, quoi. Honnêtement.
Rien n'est jamais joué.
Oui, donc vous l'avez choisi vraiment pourquoi? Pour le message ou pour la cote Verneuil?
Non, pour le message.
Pour le message?
Uniquement pour le message. Oui. Parce que la cote Verneuil, moi personnellement, je vous dirais franchement que Verneuil, j'allais pas vraiment. À part des très grands films qu'il a fait, que j'ai vus, je savais même pas qu'ils étaient Verneuil. Les derniers, j'ai pas été les voir. Icomica, j'ai pas été voir le film. Donc. Je sais pas, j'étais pas spécialement attiré par Verneuil, mais le scénario, oui. Et en tournant avec Verneuil, je me suis rendu compte que c'était un monsieur très, 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 très touchant, parce que vraiment, il a 4 ans d'âge mental sur le tournage. Et il est tellement. On peut pas dire que c'est un monsieur qui a fait 30 films, il est pas désabusé. Hein.
Est-ce que monsieur Devers est prévenu?
Yes, sir, je suis.
Oh, Mr. Devers himself is on the set.
Yes, I do.
Please,
I do.
Will you take my place?
Yes.
Bon, alors, pendant que tu tournes, mon petit Patrick, je te dirai le texte off.
D'accord.
Et tu tourneras.
Sur le tournage, les deux hommes se respectent et s'apprécient, même si le bouillonnant acteur ne s'accommode pas toujours très bien de la discipline et de la rigueur imposée par le cinéaste. Et Verneuil, lui aussi, ne tolère pas toujours certaines mauvaises habitudes du comédien, comme celle d'arriver en retard sur le plateau, ce que raconte son fils Patrick Malakian, qui était assistant réalisateur sur le tournage, dans l'un des bonus de l'édition DVD Blu-ray de 1000 milliards de dollars.
On a tourné devant cette imprimerie qui est dans le film, l'imprimerie de Vezon. Et l'extérieur, l'arrivée, c'est l'arrivée, il arrive en taxi à l'extérieur. Et donc on installe le matin tout, on met les projecteurs, tout ça très bien et tout ça. Et puis à 9h, mon père dit à Vergne, on est prêt. Alors, faites venir Devers. Moi, je suis dans les loges, je sais que Devers n'est pas là. 99 fois sur 100, quand on dit prêt à tourner à 9h, il se trouve qu'on est prêt à tourner à 9h20, 9h30, et comme il savait qu'il n'avait pas de maquillage à faire, particulièrement lui, il n'arrivait jamais à l'heure. Et donc, j'ai le premier assistant qui m'appelle, qui me dit, il n'est toujours pas là. Et j'ai dit, non, il n'est pas arrivé. Bon, donc, on laisse passer 5 minutes, 10 minutes, sans vraiment expliquer qu'est-ce qui se passe et tout ça. Au bout de 10 minutes, mon père dit, et alors, il arrive? Je vais vérifier, dit Verne, qui m'appelle, toujours pas là, non, toujours pas là. Donc Verne était obligé d'aller voir papa pour lui dire, il n'est pas arrivé. Ah, dit mon père, qui ne s'énervait jamais sur un plateau. Donc le chef opérateur dit, on va soulager. Et mon père dit, non, vous ne soulagez rien du tout, vous laissez tous les projecteurs allumés. Et je voudrais que toute l'équipe vienne ici, s'il vous plaît. Par quel côté il arrive, de Verne, quand il arrive? Alors on lui dit, il arrive par ce côté-là de la rue. Très bien, il a mis son fauteuil au milieu de la rue, qu'on avait bloqué. Il a fait asseoir toute l'équipe en arc de cercle derrière lui, comme ça. Et on a attendu. Un quart d'heure après, Devers arrive, tourne dans la rue, voit ça, accélère le pas un tout petit peu, comme ça, il arrive, mon père se lève, ne lui dit rien, et lui dit, alors voilà, donc le taxi il va arriver par là, là, il s'arrête là, tu descends et tu rentres dans l'imprimerie, d'accord, dit Devers. Après, on fait une répétition, deux répétitions, moteur, ça tourne très bien. La journée se passe, et à la fin de la journée, Devers va voir papa et lui dit « Pas mal ta mise en scène ». Et mon père lui répond tu sais, ma mise en scène, tout était écrit sur le cahier, tu sais, moi, tous mes plans sont… » Et Devers le regarde, il fait « Non, tu sais très bien ce que je veux dire ». Et de ce jour-là, Devers est arrivé 5 minutes avant l'horaire auquel on lui demandait d'être là, et passer sur tout le plateau en hurlant « Patrick Devers est arrivé, Patrick Devers est là, si quelqu'un me cherche, je suis là !» Et voilà, et ça s'est terminé comme ça.
Autour de Devers, Verneuil concocte une distribution haut de gamme. Charles Denner, Caroline Cellier, Jean-Pierre Calfon, Michel Auclair, Annie Dupéret, Jeanne Moreau pour une unique scène, et l'acteur américain Mel Ferrer qui campe Cornelius Vaughan, l'impitoyable et redouté patron de la GTI. Dans cette scène de 1000 milliards de dollars, il affronte à fleur et mouchetée les critiques du journaliste Paul Kerjean lors de la convention annuelle de la GTI.
Alors, monsieur Kerjean, est-ce que votre journal fait partie de ceux qui pensent que les sociétés comme GTI sont responsables des malheurs de l'Europe?
Oh. ce sont les économistes qui disent ça. Mais ils le disent dans des livres tellement compliqués qui ne sont lus que par d'autres économistes. Ça ne va pas plus loin.
Et vous, monsieur Kerjean, vous lisez ces livres?
J'en ai lu quelques-uns. Mais je vous avoue que j'ai pas tout compris. C'est toujours plein de courbes, de tableaux de croissance, d'investissement, de pénétration de marché. Il y a quand même 3 ou 4 chiffres que j'ai retenus qui m'ont fasciné. Il y a, paraît-il, aujourd'hui dans le monde, si on exclut les pays socialistes, 30 sociétés, dont la vôtre, qui totalisent à elles seules un chiffre d'affaires annuel de 1000 milliards de dollars.
Et alors?
Alors, une puissance aussi colossale concentrée dans si peu de mains, ça fait peur. 1000 milliards de dollars. C'est 1,5 fois le produit national brut d'un pays comme la France. C'est 1/3 de la richesse annuelle des États-Unis. 1000 milliards de dollars, c'est 10% de la richesse annuelle du monde. Pour un club de 30 personnes.
Mais de quoi vous plaignez-vous? Il reste encore 90% pour les autres.
Ah, pas tout à fait, parce que si on élargit votre club de 30 sociétés à 200 sociétés, alors là, vous contrôlez 20% de la production mondiale en utilisant seulement 0,5% de cette population. Évidemment, vous pouvez toujours me répondre qu'il en reste encore 80% pour les 4 milliards d'individus qui peuplent le reste du monde.
Dans ce monde où nous vivons, monsieur Kerjean, il faut grandir ou mourir. Nous avons décidé de grandir. Pas d'objection?
Aucune. Merci. D'ailleurs, un petit chef d'industrie qui pensait probablement comme vous a déclaré un jour, quand une multinationale se pointe sur votre marché national, il vous reste 2 solutions. Vous vous vendez à elle ou vous fermez boutique.
Il devait sûrement traverser une petite dépression nerveuse. Ça arrive souvent. Bah, ça s'arrangera.
Ouais, ça s'est très bien arrangé pour lui, je vous remercie. Il a vendu son affaire à GTI.
Eh bien voilà, un homme avisé et malin. Il va pouvoir partir en vacances toute l'année. Tous ses soucis sont pour nous maintenant.
Verneuil nourrit son film de détails assez glaçants. La convention de la GTI calée à 4h du matin pour être toujours à l'heure américaine, ou cette volonté affichée de Cornelius Vogen que sur sa tombe soit inscrit le cours de l'action GTI. Quant à l'immense salle de réunion réunissant les principaux collaborateurs de la firme, elle est créée au studio de Billancourt, dans un impressionnant décor signé Jacques Saulnier. 1000 milliards de dollars s'inscrit également dans une série de films français sortis peu de temps auparavant et qui traitaient de la finance et de ses inévitables dérives. Le sucre de Jacques Rouffio, L'argent des autres de Christian de Chalonge ou L'imprécateur de Jean-Louis Bertuccelli. Verneuil va sans doute plus loin que ses confrères, faisant prononcer à l'un des personnages le terme de mondialisation, une première dans un long-métrage tricolore. Mais cet aspect relativement visionnaire n'est pas remarqué lors de la sortie de 1000 milliards de dollars, qui reçoit des critiques une fois encore mitigées, et un succès moindre que les précédents films du cinéaste. Ce qui décevra d'ailleurs Patrick Devers. Pour prouver qu'il est toujours un réalisateur d'action, Verneuil tournera une dernière fois avec Belmondo dans Les Morphalous en 1984, puis reviendra sur son enfance dans Mérig et 588 rue de Paradis au début des années 90, tiré de ses romans autobiographiques dans lesquels il rend hommage à sa mère, à qui il donne les traits de Claudia Cardinal. Un César d'honneur lui est remis des mains d'Alain Delon en 1996, il fait son entrée à l'Académie des Beaux-Arts en 2000. Et pourtant, Henri Verneuil ne se sentira jamais estimé à sa juste valeur, jusqu'à sa mort survenue brutalement le 11 janvier 2002. Depuis, ses films sont régulièrement rediffusés et son nom orne les rues et les places de plusieurs villes de France, dont Marseille bien sûr. Preuve s'il le fallait qu'Henri Verneuil restera dans la mémoire collective comme un homme ayant apporté au cinéma toute sa dimension populaire, au sens le plus noble du terme. C'était Une histoire de cinéma, une émission revue et corrigée, le média consacré à l'actu des classiques du cinéma. Retrouvez Une histoire de cinéma sur toutes les plateformes de podcast et sur le site de Revue et Corrigée. Je vous retrouve à la rentrée pour un nouveau chapitre.